Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 8h49, les grands débats ce matin. Françoise de Gaulle, Elisabeth Lévy, vous appelle 0826-300-300. On va revenir sur la réunion de causeurs. L'interview de Marine Le Pen. Éric Zemmour va faire élire Pécresse selon Marine Le Pen. Et François Hollande, le candidat finalement pour réunir les gauches.
Oui, c'est ça. Alors on s'est posé la question avant-hier, hein, puisqu'il y avait une tribune de Yves de Rey là, dans Forbes qui disait qu'il y avait un plan secret du côté de François Hollande. D'abord donc sur Marine Le Pen. C'est une interview dans le numéro de causeurs qui sort là, de février, Elisabeth Lévy. Vous avez donc interviewé Marine Le Pen et elle est toujours en guerre, alors avec plus que jamais en guerre avec Éric Zemmour.
Bah oui, et d'ailleurs, enfin, moi je voudrais dire d'abord, évidemment, Marine Le Pen dit ce qu'elle veut, hein, c'est pas nos propos à nous, et non. Éric Zemmour pourrait dire un peu la même chose, si vous voulez. Donc, effectivement, alors, il y a quand même des différences entre les deux, y compris sur les électorats. Il y a une intersection, hein, il y a deux ensembles, il y a une intersection commune des électeurs communs, mais chacun évidemment a ses propres électeurs en plus, c'est-à-dire que et en fait pour eux la clé du second tour pour Éric Zemmour c'est d'attirer quand même un certain nombre de ses électeurs disons plus populaires, et pour Marine Le Pen à mon avis c'est quand même d'attirer un électorat plus bourgeois, etc. Alors, ce qui m'a tout de même frappé, c'est que, si vous voulez, vous savez, il y a cette blague qui était, je crois, dans le Canard Enchaîné il y a quelque temps. C'était Marine Le Pen qui disait avec moi, faites barrage à l'extrême droite.
Parce qu'elle a gauchi un peu son image, quoi.
Alors, elle l'a surtout adouci, elle l'a normalisé. Elle dit d'ailleurs, alors ça m'énerve un peu parce qu'elle le dit aussi dans le Figaro d'hier, alors qu'elle nous l'a dit à nous il y a 10 jours. Elle dit aussi, Zemmour reproduit toutes les erreurs de mon père et en tous les cas elle pense surtout à une erreur qui est d'assumer la diabolisation.
Mais voilà, là, maintenant il y a un enjeu actuellement qui est quand même après la déclaration de Marion Maréchal en fait l'autre jour, qui est sur la réserve, mais on l'a bien compris qu'il ne va pas soutenir sa tante et qui est plutôt du côté d'Éric Zemmour. Au sein des rangs RN, là je vois à Marseille le RN qui expose 4 conseillers municipaux sur 9 qui quittent le groupe au conseil municipal, alors que Stéphane Ravier refuse de sanctionner justement une élue qui parraine Éric Zemmour, quoi. Donc c'est tendu, hein.
Oui, mais juste, je voulais dire ça. Ce que peut amener Marion Maréchal Le Pen, c'est Marion Maréchal, c'est le sud de la France et son électorat. C'est ça qu'elle peut amener. Mais c'est-à-dire, en gros, ça peut faire bouger au plan national 0,5, les gens qui sont plus ou moins proches de Ciotti parce qu'elle a gagné sur son nom. Il faut quand même bien réaliser que ça fait maintenant une semaine qu'on est dans cette percolation, que les gens ont bien percolé et que il n'y a aucun sujet sur qui fait la course en tête dans cette primaire de l'extrême droite. C'est Marine Le Pen, à l'évidence. Elle écarte 3, 4, 7 sur le rolling d'IFOP. Elle écarte quasiment à 6 points avec Éric Zemmour. Donc,
c'est rapproché, là.
Non, je ne suis pas sûr. 14 à 17.
Non,
en plus, on ne sait pas s'il y a un vote caché Zemmour.
Sondeurs dignes de ce nom disent que les votes cachés n'existent plus. Ni Zemmour, ni Le Pen, ni Mélenchon. Donc ça, voilà. Donc, elle continue d'écarter. Moi, je veux bien qu'on joue à ce suspense-là qui, pour le moment, n'existe pas. C'est le premier point. Et moi, j'ai été frappé. Je suis très étonné qu'on ne se soit pas jeté sur votre interview parce que parler comme ça, Marine Le Pen, c'est un vrai angle de campagne.
Alors,
il commet les erreurs de Jean-Marie Le Pen. En gros, il est dans la radicalisation qui est telle qu'il ne peut pas élargir.
Alors, il y a quand même autre chose, moi, qui m'intéresse et qui va intéresser aussi François, c'est que dans le fond, il y a aussi deux stratégies qui découlent de deux analyses du paysage politique ou c'est-à-dire que pour Éric Zemmour, il y a encore un clivage droite-gauche puisqu'il veut faire l'union des droites. Éric Zemmour, c'est un conservateur. Moi, je ne lui donnerai pas du tout le titre d'extrême droite, malgré ses foucades, si je puis dire. D'ailleurs, moi, je n'aime pas ce mot d'extrême droite parce qu'il nazifie, etc. Ouais. Bon. Mais Marine Le Pen, elle nous le dit clairement, elle pense que le clivage droite-gauche n'a plus de sens et que le clivage idéologique aujourd'hui, c'est populiste, mondialiste. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, moi, je pense qu'intellectuellement, théoriquement, c'est plutôt elle qui a raison, mais que dans la pratique, si vous voulez, le clivage droite-gauche perdure, qu'il reste une espèce d'affiliation affective. Les gens se disent de droite ou de gauche encore, même si ça n'a pas de sens.
Et ben moi, je ne suis pas d'accord. C'est le seul point sur lequel je suis d'accord avec qu'Éric Zemmour, c'est que je pense que le clivage gauche-droite existe profondément, que la façon de percevoir le monde quand on est de gauche, c'est pas tout à fait la même, que c'est même carrément pas la même que quand on est droite. Je pense que ce sont des lignes très profondes de pensée qui ne disparaîtront pas, et Marine Le Pen, ça l'arrange, mais Marine Le Pen, elle a tort, à mon avis, de jouer, elle rentre dans le jeu d'Emmanuel Macron. Le jeu d'Emmanuel Macron, c'est de dire, le monde se partage en deux, vous avez les progressistes d'un côté, genre les êtres de lumière, etc., et puis vous avez les hommes et les femmes des cavernes de l'autre, c'est-à-dire les populistes. Ça fait 5 ans qu'il vit là-dessus, Emmanuel Macron. Il va refaire une campagne là-dessus, c'est moi ou le calot, bon, c'est la lumière, etc. Ouais. Et elle a tort, Marine Le Pen, elle a vraiment tort de rentrer dans cette idée-là.
Mais il y a quand même un clivage entre la France des métropoles, oui, des gagnants de la mondialisation,
non,
et la France des perdants,
oui,
ou des gens plus exclus, éloignés des centres de pouvoir.
Je suis d'accord, mais je pense que la fracture gauche-droite existe profondément, et je pense que c'est une faute stratégique de rentrer dans le jeu.
Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, 0826-300-300. Est-ce que Marine Le Pen, quand elle dit Zemmour va faire élire Pécresse, est-ce qu'elle a raison de dire ça? Vous pouvez nous appeler et réagir. On en parlera tout à l'heure à 9h15, juste après Revel en campagne. Un mot aussi, Françoise de Goix, parce que vous connaissez bien le Parti Socialiste, évidemment. Ségolène Royal, François Hollande. Tous ces bruits autour de François Hollande. Est-ce que c'est vraiment sérieux? Il pourrait revenir mi-février ou pas?
Moi, j'ai discuté avec lui, clairement, quand j'ai vu ses déclarations, j'ai dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Je vous livre tout. J'ai dit, non, ouais, mais tu vas pas être candidat. Il dit, non, je ne suis pas candidat. Donc, à moins de mentir à ses amis, mais il peut...
Ce n'est pas la première fois
qu'il mentirait comme un arracheur de dents. Il n'est pas le seul, le mensonge étant une succession de sincérité successive, voilà.
Et donc, une nécessité de la vie sociale.
Voilà.
Plus sérieusement,
je n'y crois pas une minute. Je ne crois pas du tout. Je pense qu'il veut continuer à jouer le jeu. Je pense qu'il veut sauver le Parti Socialiste. Je pense qu'il veut
Oui, mais s'il veut sauver le Parti Socialiste... Parce
François
que
Hollande ne prendra... Il n'a même pas Anne pris
Hidalgo,
le risque.
Oui, Anne Hidalgo, bon, elle est à 2-3%. Oui. Est-ce qu'elle peut peut-être monter au-dessus?
Vous
imaginez, Mais il y en a beaucoup à l'intérieur du PS qui disent non, mais ce n'est pas possible.
Je vais vous répondre par une question. Est-ce que vous imaginez que le Parti Socialiste actuel, avec Olivier Faure, qui ne passe pas un coup de fil à François Hollande depuis 2 ans, accepterait une substitution du président sortant?
Oui, mais quand vous avez le mur en face.
Mais vous appelez
le 15.
Mais jamais vous appellerez le 15, parce que François Hollande, c'est pas le 15. Donc voilà, et il est trop prudent. Il aime pas se faire mal.
Donnez-moi son numéro de téléphone, on va l'appeler dans
un
instant.
Vous l'avez, je vous l'ai déjà donné.
Effectivement.
Elle balance tout.
Je balance tout, moi. Je parle vrai, moi, madame.
Appelez-nous, François Hollande, 0826.
Appelez-nous, François, appelle-nous. S'il te plaît.
Et vous aussi, bien sûr, vous nous appelez 0826-300-300. Donnez-nous votre avis. Et dans un instant, Revel en campagne. À tout de suite.
Sud Radio présidentielle 2022.
Et donc, Revel en campagne. Éric Revel, bonjour.
Bonjour, Cécile.
Oui, Éric qui va aussi, évidemment, au fond des choses. La crise du logement, on en parle peu, effectivement. Hier, il y avait eu grand oral avec la Fondation, effectivement, Abbé Pierre.
Sur le mal-logement.
Oui, sur le mal-logement. Parce qu'on ne construit pas assez de logements dans notre pays. Les prix des loyers ou du mètre carré grimpent, pendant que le pouvoir d'achat des Français, il s'étiole.
Oui, alors la Fondation Abbé Pierre, un petit mot quand même, parce que si Jean-Luc Mélenchon a surnagé le débat d'après les gens qui étaient présents, c'était un véritable naufrage pour Christiane Taubira, qui visiblement ne connaissait pas le dossier du mal-logement, alors qu'elle s'intéresse aux déshérités. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle a passé un sale moment, Christiane Taubira. Alors sur la construction de logements neufs dans notre pays, on peut dire que c'est l'un des échecs les plus cuisants de ce quinquennat. Là où les spécialistes estiment qu'il faudrait livrer 500 000 logements par an pour éviter une crise majeure, la production dépasse péniblement les 300 000. Du coup, vous le savez, les prix des loyers augmentent, rajoutant aux difficultés de pouvoir d'achat actuel des Français, et le prix du mètre carré pour ceux qui veulent acheter continue d'évoluer à la hausse, consacrant évidemment le décalage entre l'offre et la demande, notamment une maison individuelle depuis le déclenchement de la crise sanitaire en 2020. La question du logement, premier poste de dépense des ménages, est une priorité des Français, que les candidats à l'élection présidentielle, Patrick, abordent en ordre dispersé.
Oui, Éric, que proposent les principaux candidats à la présidentielle?
Alors, ils proposent beaucoup de choses. J'ai essayé de résumer et de synthétiser. La gauche, ça ne va pas vous surprendre, Anne Hidalgo, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, mettent le paquet sur la construction de logements sociaux. Quelques chiffres, Hidalgo, 150 000 logements sociaux par an, Jadot, 700 000 logements sociaux sur le quinquennat, plus 10 milliards d'euros sur la table par le candidat écologiste pour la rénovation thermique. Jean-Luc Mélenchon, lui, c'est 200 000 logements sociaux par an, exactement d'ailleurs le même chiffre que Fabien Roussel, le patron du Parti communiste français. À droite, Valérie Pécresse, elle veut trouver du financement, elle veut fusionner le livret A et le livret de développement durable pour la création d'un livret qu'elle appelle « vert », doté d'épargne fusionnée, 120 milliards d'euros, pour construire des projets de logement à bas carbone. Valérie Pécresse qui dit « il ne faut pas dépasser 30% de HLM par commune ». Marine Le Pen, dont on parlait tout à l'heure, elle veut promouvoir une France de propriétaires ruraux avec une initiative originale, des prêts à taux zéro de l'État, de 50 à 100 000 euros pour cette accession à la propriété. Et puis Éric Zemmour, lui, il veut supprimer la fameuse loi RSU, hein, que Christiane Taubira ne connaissait pas hier lors de cet oral, qui impose, on le rappelle, à toutes les communes 25% de logements sociaux. Il considère, Éric Zemmour, que le logement social, je cite, et sème l'immigration.
Oui, ces projets en faveur du logement social ou de l'accès à la propriété, est-ce qu'ils vous semblent faisables, réalisables ?
Tous ces projets, notamment de logements sociaux, même si on en a besoin, hein, ne sont pas vraiment financés. Pire, hein, ces projets oublient un détail essentiel, c'est que pour construire, il faut du foncier, il faut du terrain. Or, c'est un vrai problème en France. Alors, il y a des pistes quand même. Hein. Transformer, par exemple, les friches et les terrains de la SNCF en terrain à bâtir. Recycler les friches industrielles, notamment des centres commerciaux en périphérie qui périclitent, puisque le commerce se déplace plutôt en ville. On pourrait les transformer en terrain à bâtir. Ou lancer, d'ailleurs, un autre projet, le grand retour des logements de fonction. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Oui. Dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les grands administration, ça permettrait de dégager du foncier, donc de construire des logements. L'accès à la propriété, on le sait, est devenu pour beaucoup un rêve inaccessible financièrement. Depuis 10 ans, le taux des propriétaires en France ne bouge pas. Il ne bouge pas, c'est-à-dire que les Français n'arrivent pas à accéder à la propriété. Il est toujours aux environs de 56-57%. L'encadrement des loyers est imaginé aussi par certains candidats de gauche. Il a été mis en place ici et là, mais il a souvent aussi pour effet de bloquer le marché de la location. Donc les Français ont besoin de se loger. La baisse de leur pouvoir d'achat accélérée par la résurgence de l'inflation implique une réponse urgente du nouveau président, de la nouvelle présidente, élue ou réélue, et les Français le disent dans tous les sondages, il y a urgence.
Merci Eric Revel. C'est un sujet qui revient régulièrement, pas forcément toujours en une dans les campagnes présidentielles, le logement. Et pourtant, c'est essentiel. Quand on parle en fait du pouvoir d'achat, Elisabeth Lévy, Françoise Degoy, Éric Revel et vous, au 0826-300-300, on parle énormément des factures, de l'énergie, etc. Mais le logement, c'est le poste le principal.
Vous avez tout à fait raison et je crois que c'est une des plus mauvaises ventes de causeurs. On a fait une sur le logement social,
oui.
Parce que ça nous paraissait être un sujet vraiment important. Mmh. Ça a été un flop. Alors, vous avez raison, quand vous dites...
Oui, mais vous aviez fait le logement social, donc peut-être...
Non, mais même, c'est un sujet très important, mais comme vous dites, c'est pas un sujet en une. Et je trouve qu'Éric a eu bien raison de faire sa chronique là-dessus. Moi, j'ai une question, en fait. Je ne maîtrise pas vraiment le dossier. Je vois bien que c'est un gros problème, par exemple, pour beaucoup de Français de se loger dans les villes et que dans les grandes villes comme Paris, les ménages des classes moyennes ont été chassés. Ça, c'est vraiment terrible.
Dans d'autres grandes villes aussi, hein. Il n'y a pas que Paris.
Oui, ouais. Dans toutes les grandes villes, tous les centres-villes, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle la gentrification.
Bien sûr.
Il n'y a plus de classe moyenne. Il n'y a que, effectivement, des pauvres, des très pauvres, si je peux dire, ou des milieux très modestes et des très riches. Et c'est un problème. Mais ma question est, en fait, est-ce qu'il n'y a pas un effet pervers de notre système de logement social ? Je m'explique. C'est-à-dire qu'en Allemagne, par exemple, il me semble que le système consiste à donner, si vous voulez, à donner une subvention aux ménages et ils vont se loger sur le marché privé. C'est-à-dire on les aide à avoir un logement sur le marché privé. Et je me demande si plutôt que de créer finalement, si vous voulez, toutes ces zones de logements sociaux qui sont vraiment souvent pas terribles, etc.
Et ça s'améliore, mais oui.
Mais en plus avec l'idée, si vous voulez, que les gens ne voient même pas ce que ça coûte. Vous voyez bien que quand on paye un HLM, on ne voit pas ce que ça coûte. Je me demande si ce système ne serait pas préférable, Éric.
Oui, je sais pas. Alors le marché immobilier allemand, il est un peu différent du marché immobilier français. Par exemple, très longtemps, la capitale Berlin était très sous-coté.
Oui.
C'est-à-dire que le prix du mètre carré à Berlin n'avait rien à voir avec celui du mètre carré à Paris ou dans les grandes villes françaises. Mm-hmm. Donc il y avait un vrai décalage. D'ailleurs, il y avait beaucoup de sociétés immobilières qui investissaient en Allemagne, mais pas pour construire des logements pour les Français, pour construire des logements ou pour acheter des logements pour les Allemands ou pour faire de la spéculation immobilière. Mais c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais on le rappelait tout à l'heure, c'est le premier poste de dépense des ménages. C'est le premier poste, que vous soyez locataire ou propriétaire, que vous payez un loyer tous les mois ou que vous remboursiez un emprunt tous les mois, c'est un vrai, vrai poste. Et il faut quand même le souligner, parce que le gouvernement n'en parle pas assez, et la ministre Wargon, chargée du logement, est toujours un peu sur des charbons ardents quand on en parle, c'est que on avait des objectifs au début de ce quinquennat extrêmement ambitieux de construction de logements, et ces objectifs n'ont pas été tenus. Donc la crise s'est élargie. Donc le mouvement d'exfiltration des classes moyennes, notamment de Paris, continue. Et finalement, on parle de l'inflation, on parle de l'énergie, mais on ne parle pas de ce poste central qui est le prix qu'il faut payer pour se loger.
Ouais. Françoise de Gaulle, vous l'y ajoutez.
Emmanuel Macron l'a reconnu, d'ailleurs il a été obligé de le reconnaître hier devant la Fondation de l'Abbé Pierre. Il l'a reconnu, il a dit effectivement, on n'a pas été assez loin, je le regrette. On se demande bien qui c'est qui gouvernait pendant 5 ans. C'est ça, lui, son projet, c'est un peu compliqué aussi. Vous avez vu, son revenu minimum, il veut son revenu minimum d'activité, il veut fusionner les APL avec les minima sociaux, avec une meilleure accession. Il faut quand même, moi je rajoute ce que vous dites au logement, ça va dans le grand paquet, si vous voulez, des travailleurs pauvres. C'est-à-dire que vous avez des gens qui ne peuvent même plus accéder au logement. La légende des gens qui dorment dans leur voiture pour aller travailler n'est pas une légende, c'est une réalité de plus en plus fréquente aux abords des centres-villes, des grands centres urbains. Donc je suis d'accord. Mélenchon a beaucoup bossé sur le logement, Anne Hidalgo aussi dans son programme, mais la réalité, si vous voulez, c'est qu'il faut mettre énormément d'argent sur la table, et puis il faut faire respecter la loi SRU dont vous parliez tout à l'heure. Honnêtement, en termes de logements sociaux, il y a les bonnets d'âne, vraiment, dans les grandes villes, Neuilly, on prend toujours l'exemple de Neuilly, qui ne respecte pas le pourcentage des logements sociaux. Ouais. Le logement, c'est pas qu'une affaire d'argent, c'est votre intimité, c'est l'endroit où vous rentrez pour vous ressourcer d'une vie sociale qui est parfois heureuse, parfois agressive, etc. C'est fondamental. La maison, c'est un droit humain, c'est partie des droits de l'homme, je suis désolé. Et donc, vraiment, ce combat, il faut le prendre à bras le corps. Elisabeth. Et effectivement, Christiane Taubira n'a pas été brillante hier.
À Paris, il me semble qu'Anne Hidalgo, si vous voulez, fait beaucoup de moulinets, mais elle a surtout, en réalité, fait de la transformation. Elle a très peu construit.
Parce que Paris est contraint. Paris est la capitale et la ville au monde la plus dense. Elle est plus dense encore que Tokyo en termes de...
Alors, je vais vous donner un exemple à côté de le quartier où j'habitais avant, qui était le vôtre. Oui. C'est-à-dire, je vais le dévoiler.
D'accord, on ne va pas faire que Paris, mais allez-y. Oui.
Non, mais c'est le quartier du Marais à Paris. Il y avait un très bel immeuble du 17e qui a été rénové, refait en logements sociaux. Deux jours après, il y avait des dealers, des gens qui faisaient la queue en bas pour acheter leur dope, etc., etc. Alors, il faut comprendre. Moi, je comprends très bien les riverains qui n'ont pas forcément envie de voir venir s'installer. Non, mais il faut aussi... La réalité, c'est ça.
Oui, mais vous connaissez bien la RIVP, par exemple, qui gère tous les logements sociaux à Paris. Et là, je parle de ce que je connais, mon quartier, les quartiers alentours, c'est-à-dire le Marais, etc. Ça se passe très bien dans les logements de RIVP. Ça se passe très bien aussi dans les...
On va prendre un petit peu de hauteur.
C'est pour quand même vous expliquer que ça peut aussi... Les logements sociaux, ça peut aussi amener un certain type de problème.
Ça amène aussi ce que vous dénonciez, pardonnez-moi, dans plein de villes de France, cette gentrification, ça amène aussi la possibilité pour la classe moyenne de rester aussi dans les centres-villes.
Le logement social, c'est pas fait pour les classes moyennes, pas à Paris.
Excusez-moi, vous avez le logement social, le logement social, et puis vous avez les loyers qui sont très en dessous du prix du marché pour justement les gens de la classe moyenne, vous le savez
L'un des problèmes, évidemment, sur le. Alors, si vous dites que le logement, ça n'intéresse pas, c'est que bien souvent, en fait, il faut changer le terme. Vous parlez d'immobilier, ça intéresse. Le logement, ça n'intéresse pas. Et ça, en fait.
Merci du conseil, Patrick, on le fera la prochaine fois.
Je vous le dis, ça fait 30, 40 ans que je suis, en fait, ces questions, que je l'ai toujours vues. Donc, un titre change tout.
Je peux vous poser une question à ce sujet.
Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, par rapport, en fait, au logement social, le principe principal problème, c'est qu'il n'y a pas de turnover. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le logement social, beaucoup de familles restent, quoi qu'il en soit, dans les logements sociaux, même si, évidemment, elles accèdent à des revenus supérieurs, et elles ne bougent pas. Et comme il n'y a pas de turnover, eh bien, des personnes qui devraient accéder, en fait, au logement social n'y arrivent pas, en fait. Et ça, c'est l'un des problèmes. C'est un problème fondamental.
C'est un problème d'inspection, ça. C'est un problème aussi de déclaration.
Oui, alors on a réévalué un petit peu, mais pas suffisamment. Voilà, quoi. Éric Revel.
Oui, non, je voulais dire quand même que quand on regarde un peu dans le détail les succès et les échecs d'Emmanuel Macron dans ce quinquennat, alors on a un Bruno Le Maire flamboyant et triomphant qui annonce toujours les chiffres qui ne gênent pas ou les dossiers qui ne gênent pas, mais regardez dans l'actualité récente, on s'aperçoit qu'il y a des promesses d'Emmanuel Macron ou des objectifs qui n'ont absolument pas été tenus. On parle du logement, là, et des 500 000 qui n'ont pas été tenus, de construction par an. On parlait, à cause du scandale Orpea, de